Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Fanta Beretté, responsable de l'animation politique de La République En Marche Paris, suppléante du député Hugues Rançon, élu du 15e arrondissement et membre de la Commission nationale des talents de La République En Marche. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Fanta Beretté, avant d'évoquer le travail que vous menez au sein de La République En Marche en vue de l'élection présidentielle et des législatives, j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre parcours à la fois personnel et politique.
Très bien. Donc, je suis née à Lyon, donc il y a un peu plus de 46 ans. Donc, après le bac, comme beaucoup de provinciaux, je suis montée à Paris, comme on dit. J'ai suivi un cursus qui m'a amené à faire une école de commerce, puis l'université de Toulouse pour un master et en formation continue Sciences Po. Je suis une maman solo, je suis directrice de projet, donc je travaille pour un établissement public où je mène des projets autour de la transformation. Et concernant mon engagement, il a commencé d'abord par l'associatif, comme bien souvent. Donc, j'étais donc dans une fédération de parents d'élèves et petit à petit, j'ai souhaité voir un petit peu comment tout ça fonctionnait de dedans. Et je suis devenue conseillère de quartier dans le 15e, donc secteur Brancion, donc le 15e sud, 15e un peu plus populaire que les quartiers nord. Et ensuite, il y a eu l'année 2016.
Et alors justement, Fanta Beretté, pour quelles raisons vous êtes-vous engagée auprès d'Emmanuel Macron et quel a été votre rôle depuis la création de La République En Marche ?
Bien, écoutez, en 2016, comme beaucoup de Français, j'étais quand même attentif à ce qu'il allait se passer. Hein. Moi, à la base, j'ai toujours voté PS. Hein. Je suis née dans une famille où on votait PS. En 81, mes parents ont été naturalisés. Pour fêter ça, on est monté à Paris pour voir le défilé. C'est un souvenir marquant, structurant d'ailleurs pour moi. Mais c'est vrai, j'ai été déçue par le quinquennat Hollande. Et j'ai été happée finalement par le discours, les propos d'Emmanuel Macron en avril 2016. Donc comme énormément de personnes, je me suis connectée à la plateforme En Marche. Et j'ai suivi de loin, dans un premier temps, l'ensemble des travaux qui étaient menés, notamment concernant donc cette idée de grande marche que je trouvais très intéressante. Aller sur le terrain, recueillir l'avis des Français, savoir véritablement ce qu'ils pensent, hein, ce dont ils ont besoin. Et à la fin de l'été 2016, hein, le mouvement a envoyé un message disant qu'il souhaitait se structurer et qu'il cherchait des personnes pour occuper des postes de référents, d'animateurs locaux, etc. Donc j'ai postulé au poste de référente, hein, et je suis devenue donc la référente pour le 15e arrondissement. Donc le référent, c'est En Marche, c'est le responsable politique d'un territoire. Donc ailleurs en France, donc on en a un par département. À Paris, il y a une particularité, nous en avons un par arrondissement. Le 15e étant le plus grand arrondissement de Paris, avec plus de 235 000 personnes, effectivement, très vite, les chiffres sont montés. Très vite, j'ai eu plus de 6 000 adhérents en marche, une équipe de plus d'une trentaine de personnes. Et nous avons suivi les conseils du siège et nous sommes montés en puissance de mois en mois jusqu'au résultat que vous connaissez.
Et alors, on est à 124 jours de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron n'a pas encore officialisé sa candidature, mais on imagine qu'il sera candidat. Tout est prêt pour sa candidature. Son parti, La République En Marche, s'organise. On se rappelle qu'avant l'élection 2017, votre parti était allé à la rencontre des Français. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes appelés les marcheurs. C'est la même démarche pour l'élection de 2022 ?
Oui, exactement. Donc, vous le savez, Emmanuel Macron a toujours été le maître des horloges. Donc, en attendant, nous, on se prépare. Donc, il y a eu dans un premier temps le lancement de la phase d'écoute. On retourne à notre ADN. C'est véritablement quelque chose qui nous caractérise. Donc, avec une grande opération d'écoute qui a été lancée sur une durée de 2 mois, avec la possibilité pour chacun des marcheurs, finalement, depuis son smartphone, de passer donc 9 questions dans l'ensemble sur l'ensemble du territoire français, des territoires d'outre-mer, des questions du type qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce quinquennat, quels sont les domaines d'action du gouvernement où le gouvernement n'a pas été à la hauteur, et selon vous par exemple quelles pourraient être les priorités du prochain quinquennat. Donc l'ensemble finalement de ces informations vont nous permettre encore une fois d'être au plus juste dans nos propositions à venir et également de débattre, parce que ça fait également partie de notre ADN, de débattre également dans chacun des territoires et choisir les propositions les plus marquantes. Le deuxième point, c'est la constitution de la maison commune. Donc, comme vous le savez, nous avons lancé le mouvement Ensemble Citoyen, donc la semaine dernière, donc une alliance entre la République En Marche et ses alliés, le mouvement démocrate, Agir, le nouveau parti d'Édouard Philippe Horizon, Territoire de progrès et En Commun. Donc avec une charte des valeurs et donc un comité exécutif qui repose sur Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe et Jean Castex. Donc nous nous préparons et nous serons prêts au moment où le président aura décidé d'être candidat.
Fanta Beretté, l'un des enjeux de cette élection présidentielle, ce sera la participation. Comment convaincre les Français de ne pas s'abstenir lors de cette prochaine présidentielle? Il y aura ensuite les législatives qui viendront juste après.
C'est une question dense. Alors c'est vrai qu'en ce moment, de nombreuses personnalités se saisissent de cette question. Donc Stéphane Travert, par exemple, qui est député, a lancé une grande consultation. Mais c'est vrai que du coup, on rentre déjà via la consultation dans un temps moyen de réflexion. Et donc là, l'échéance arrive. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est à la classe politique de faire aussi son travail, des petits élus comme moi, jusqu'à nos ministres, pour réaffirmer que le vote est important, que l'on soit déçu ou pas par la politique. Nous avons la chance d'être dans un pays où nous pouvons voter librement. Il faut s'en saisir, même si c'est pour voter blanc. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le vote. Participer à une manifestation, ce n'est pas le vote. Pour le moment, on doit se raccrocher aux modalités de vote telles qu'elles existent. Et effectivement, je crois que nous avons tous entendu que nous devions refondre le système. Mais du coup, pour cette élection, ça ne sera pas encore le cas. Donc nous, par exemple, à La République En Marche, nous menons des opérations de sensibilisation dans les associations, mais également auprès des habitants, donc avec des flyers dédiés, des incitations à bien vérifier qu'on soit inscrit sur les listes électorales. Et puis, il y a aussi le rôle des associations. Un certain nombre d'associations sur le territoire animent des chantiers qui visent à mobiliser la jeunesse par rapport à l'enjeu autour des 2 prochaines élections.
Pour quelles raisons souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron soit candidat pour un second mandat ?
On a commencé le travail. Emmanuel Macron avait fait un certain nombre de promesses. Aujourd'hui, nous arrivons quasiment à plus de 80% du programme 2017 réalisé. Mais un quinquennat, c'est court. Dans ce quinquennat, vous le savez, il a été perturbé par la crise sanitaire notamment. Et je crois qu'il a encore des choses à dire. Il a dit sa vision 2030. Il a encore des choses à faire pour permettre aux Français de réellement s'émanciper, de véritablement, sur certains grands sujets, changer finalement de fonctionnement, que ce soit la retraite, hein, toutes ces grandes réformes dont on s'est saisi, puisque nous sommes quasiment tous d'accord sur les constats, ce qui diffère, c'est la manière d'y aller. Donc, du coup, il y a eu ces grandes réformes en lien avec le travail, mais également envers l'école. L'idée aujourd'hui, c'est de pousser sur la réindustrialisation, sur les questions de relocalisation. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir faire des propositions, puisque tous les autres s'occupent d'un sujet qui leur paraît majeur et lié à tous les problèmes que nous avons aujourd'hui en France, l'immigration. Nous sommes les seuls à travailler sur la jeunesse, sur l'école, sur l'égalité des chances, sur la relocalisation, l'industrialisation, finalement la France de demain.
Justement, qu'est-ce qui a été réussi pour vous par le président sortant sur la question de l'école et de la jeunesse ?
Sur l'école, l'idée, c'était de se dire, pour être un moment tous égaux, il faut avoir les mêmes chances au départ. Et le constat a été que selon, finalement, l'endroit où vous naissez, la famille dans laquelle vous naissez, bien, il y a un écart qui se forme au fur et à mesure par rapport à l'accès à la culture, par rapport à la qualité de l'enseignement. Et la mesure phare, je pense, du quinquennat, c'est, concernant l'école, c'est le fait que plus de 330 000 élèves de quartiers populaires ont pu, ou apprennent d'ailleurs, puisque c'est toujours le cas, dans des classes qui ont été divisées par deux. Cette division des classes, pareil, c'est un sujet qui avait été mis sur la table il y a de nombreuses années. Jamais ça n'a été réalisé. Et aujourd'hui, donc, de notre côté, c'est une opération gagnée. Nous commençons déjà, puisque c'est l'une des premières mesures qui a été mise en place, à pouvoir donc justement faire des relevés de progression par rapport au niveau atteint par ces élèves. On a proposé également, pour être bien à l'école, il faut aussi bien manger. Donc 300 000 élèves ont pu bénéficier de petits déjeuners gratuits. On a travaillé aussi sur la question du harcèlement scolaire avec 10 000 ambassadeurs, un numéro de téléphone unique, des cellules pour gérer le cyberharcèlement. Et il y a le dispositif aussi Devoir fait qui permet finalement à chacun, chaque élève qui en a besoin, de bénéficier dès le collège finalement d'un accompagnement personnalisé au sein de la structure éducative pour pouvoir rentrer à la maison avec l'essentiel des devoirs faits. Donc effectivement, l'avenir. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai commencé la politique. Ma fille a 18 ans aujourd'hui, donc elle avait à peine 14 ans au moment où j'ai commencé tout ça. J'avais envie véritablement qu'elle puisse se dire, même si je suis née, elle est née à Lyon, mais en tout cas, même si je vis dans le 15e arrondissement sur la partie sociale avec des écoles que certains fuient, j'ai toutes les chances de pouvoir m'épanouir en France.
Emmanuel Macron a annoncé une grande réforme de l'administration avec la suppression de l'ENA qui sera remplacée le 1er janvier par l'Institut National du Service Public. Pourquoi cette refondation ? Est-ce que cela va permettre de changer les profils des futurs hauts fonctionnaires ?
Cette question de l'ENA, elle a fait partie intégrante du grand débat qui a fait suite à la crise des Gilets jaunes. Et effectivement, certains ont posé la question du finalement, on est géré par ces personnes qui ne sont pas très terrain, qui ne connaissent pas la vie réelle. Et le président donc a proposé, a annoncé donc la réforme dans son discours, je crois, du 8 avril dernier. Ce que dit cette transformation dans notre approche de l'égalité des chances, c'est qu'on fait une mise à jour finalement du logiciel de la formation de notre haute fonction publique. Et donc, on va créer des classes préparatoires qui vont permettre finalement aux talents en région de pouvoir se préparer à rentrer dans cette école. Dans chaque région, on aura deux classes prépa talents. Donc, c'est l'occasion finalement de ne plus avoir l'obligation de monter à Paris pour réussir. Et c'est l'occasion finalement, via toute la communication qui est faite autour de ce dispositif, de permettre aux jeunes de ne plus s'auto-censurer et de se dire qu'ils ont toutes les chances et que l'État leur permet finalement de mieux se préparer pour pouvoir, s'ils le souhaitent, entrer dans ce parcours très exigeant.
Le week-end a été marqué d'une part par la désignation de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains et d'autre part par le premier meeting d'Éric Zemmour. D'abord, quelle est votre réaction après ce meeting du candidat d'extrême droite marqué par des incidents ?
Donc concernant Zemmour, ce qui me frappe en fait dans ce premier meeting, c'est finalement cette espèce de climat dans le sillage Donald Trump avec cette violence verbale. C'est également cette presque invitation à diviser les Français en fonction de leur origine. Et également, donc ça m'a sauté aux yeux hier, la violence à l'égard des anciens présidents et également finalement du président actuel. Alors effectivement, il fait des constats, il parle d'une France qui serait appauvrie. Quand je regarde ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, quand on a la meilleure croissance du continent finalement européen et que le chiffre du chômage est le plus bas depuis 12 ans, est-ce que nous avons réellement appauvri la France ? Il parle de ces salariés modestes également qui seraient appauvris. On n'a jamais autant travaillé dans un quinquennat sur le pouvoir d'achat, ou plus exactement cette notion que moi j'apprécie, qui est aussi le reste à vivre. Une notion qui nous a sauté aux yeux, encore une fois, au moment des Gilets jaunes, une notion qui est importante, mais les salaires ont été augmentés, et ce fameux 13e mois qui est couru par tous les politiques, Emmanuel Macron l'a déjà offert aux salariés. Et il parle également d'une France qui serait désindustrialisée. Bah là encore, la preuve par les chiffres. Pour la première fois cette année, le nombre d'ouvertures d'usines est deux fois plus élevé que le nombre de fermetures. Donc en fait, il surfe sur les peurs, il surfe sur la violence. Et malheureusement, on ne sait pas ce qu'il pense sur les autres sujets, il n'y a pas de proposition, et cette violence envers les autres présidents, finalement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Dernière question, très rapidement, que pensez-vous de la désignation de Valérie Pécresse comme candidate de la droite en 2022 ?
Concernant Valérie Pécresse, j'ai envie de vous dire que j'ai presque pas envie de commenter. Je crois que Ciotti a commenté pour nous tous en disant qu'elle n'envoyait pas le bon message. Donc je lui souhaite du courage finalement pour essayer de fédérer autour d'elle. Mais encore une fois, quand on écoute le discours de Ciotti et qu'on pense à la droite, cette droite qui était celle du président Chirac, on a du mal à croire que ces deux-là vont pouvoir réellement travailler ensemble et faire programme commun.
Merci Fanta Beretté. Je rappelle que vous êtes responsable de l'animation politique de La République En Marche à Paris, suppléante du député Hugues Rançon, élu du 15e arrondissement et membre de la Commission nationale des talents de La République En Marche. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.